Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Nous jurons d'être forts et grands pour sauver le pays des Francs. Créons d'antan, soit devant Dieu témoin.
Alors c'est très étrange pour Antiquissimo de démarrer l'émission avec un chant, très beau chant, mais qui n'a rien d'antique. Eh bien notre invité mystère pour quelques secondes encore va nous expliquer pourquoi j'aurais pu choisir cette étrange musique pas antique. Alors bonjour.
Ah, bonjour, bonjour aux auditeurs.
Alors, invité mystère, qui êtes-vous ? Vous êtes Yann Le Boeck,
voilà,
que
oui.
Qu'Antiquissimo connaît vraiment beaucoup, que Nîmes connaît aussi beaucoup, on en reparlera dans une petite seconde. Mais petite question malicieuse, à votre avis, Yann, pourquoi ai-je choisi de commencer l'émission avec ce chant militaire ?
Eh bien, je serais tenté de répondre un petit peu à côté en disant qu'il exalte la liberté. Il est question de liberté, il est question aussi de la patrie. Et ce sont les deux motivations principales d'un personnage qui est né près de Clermont-Ferrand, qui était un Auvergnat de l'Antiquité, un Arverne,
voilà.
C'est-à-dire Vercingétorix.
Et oui, car Yann Le Boeck, qui publie énormément et forcément travaille énormément aussi, je ne vais aujourd'hui pas, comme je le fais d'habitude, égrener la liste de tous ses livres. Je vais simplement rappeler qu'il est professeur émérite de l'Université de Paris-Sorbonne. Et d'ailleurs, c'est un titre qui a été souvent répété lorsque vous êtes venu faire une conférence au mois de mai dernier à Nîmes sur les trois stratégies de Vercingétorix, justement. Et j'ai suivi sur Internet, puisqu'il y a un lien que nos auditeurs peuvent tout à fait consulter sur les arènes de Nîmes officielles. Eh bien, ils entendront le président de l'université vous introduire et ne cesser de répéter que vous venez de la Sorbonne. Donc apparemment, c'est quelque chose qu'il faut aussi que je martèle aujourd'hui, votre prestigieux titre universitaire. Mais donc, aujourd'hui, nous parlons de Vercingétorix, un des livres qui vous tient à cœur, j'imagine, puisque c'est le dernier, mais aussi parce que la conférence le prouve, c'est un personnage que vous aimez beaucoup. Vous avez consacré du temps à l'armée très souvent, puisque vous êtes spécialiste de l'armée romaine, de l'armée antique. Et après César, chef de guerre, ce n'était pas tout à fait récent comme livre, vous avez publié tout récemment chez Talendier un livre qui s'appelle Vercingétorix. Donc là, il n'y a pas de problème, on sait de quoi il s'agit, avec un sous-titre dont je reparlerai tout à l'heure parce qu'évidemment, il est bien choisi, stratège et tacticien. Et une très, très belle couverture. Moi, j'adore cette couverture sur fond bleu où on aperçoit, je crois, la plaine peut-être d'Alésia. Enfin, on aperçoit...
Non, pas d'Alésia, de Gergovie.
De Gergovie, pardon, excusez-moi.
De Gergovie,
oui,
bien sûr.
Forcément, forcément. Et puis, ce visage très beau qui s'inscrit en jaune, comme le jaune du titre. Et donc, la couverture est très belle. Alors... vous demandez pourquoi...
Alors, je vais vous dire, pardon,
je vous en
puisque
prie.
Vous parlez de cette couverture et de ce personnage, les traits qui représentent le visage sont inspirés des monnaies qui
voilà.
ont été découvertes et qui portent le nom de Vercingétorix. Mais ces monnaies montrent Vercingétorix à gauche, comme disent les numismates, c'est-à-dire regardant à gauche du lecteur. Mais l'éditeur m'a dit « Non, à gauche, ça passera pas, ça sera très mauvais pour la vente. »
Vous savez bien que la gauche est sinistre, sinistère, donc il faut regarder vers
voilà.
la dextra. Oui.
Donc on l'a mis à droite.
Très bien, en tout cas, c'est réussi. Et ça donne d'emblée envie de lire le livre, ce que nous tâcherons de faire aussi dans cette émission. Alors, bien sûr, je précise, s'il en était utile, qu'il ne s'agit pas de raconter tout ce qu'il y a dans le livre, puisque bien sûr, les lecteurs le liront, mais de donner envie de voir sa nouveauté. Car vous signalez dans l'introduction de ce livre fort bien construit, je vais le montrer tout à l'heure, vous signalez dans l'introduction qu'il y a beaucoup de choses qui ont paru sur Vercingétorix et beaucoup d'ouvrages qui parfois sont assez vides, je dirais, de vrais renseignements sur ce personnage. Vous dites qu'il y a beaucoup d'ouvrages, mais peu de certitudes.
Et oui, c'est le problème de la documentation. En fait, si vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent peu de Vercingétorix. En fait, nous disposons d'environ 40 lignes en tout et pour tout sur l'individu, sur le personnage. En les commentant, on peut arriver à écrire 20 ou 30 pages là-dessus, c'est vrai, mais on ne peut pas aller au-delà. En revanche, ce que nous savons grâce au livre 7 de la guerre des Gaules de César et grâce à quelques autres auteurs comme Plutarque et Suétone notamment, nous pouvons suivre l'aventure de Vercingétorix, les exploits de son armée son échec final. Et c'est ça n'a jamais été en fait étudié parce que ça n'a jamais intéressé les auteurs du passé, pour qui l'histoire militaire était un aspect tout à fait secondaire de l'histoire. Or, dans le cas de Vercingétorix, on voit qu'effectivement, c'est tout de même beaucoup plus important et ça ne peut pas être négligé.
Alors, justement, dans ce livre, vous indiquez que vous allez parler du personnage, mais que vous focaliserez sur son génie, à savoir le point de vue militaire.
Son action, oui. Son action, oui.
Le point de vue militaire, vous dites que c'est ça qui va primer. Effectivement, le livre très bien construit en 8 chapitres. Donc, il y a d'abord cette introduction dont nous venons de parler. Et les chapitres balancent des deux côtés. Deux premiers chapitres avec des Gaulois et leur chef et leur armée. Deux chapitres suivants avec les Romains, le chef et l'armée, donc les adversaires de l'autre côté. Donc les adversaires en présence ont été désignés. Puis la guerre, chapitre 5, avec vous montrez, alors je signale aussi, mais ceux qui ont coutume d'écouter Antiquissimo savent que dans tous vos livres, il y a énormément de tableaux, de cartes, de croquis. Vous évoquez la monnaie, je trouve qu'effectivement le support numismatique est très important dans le livre et nous aurons peut-être l'occasion de parler de certaines pièces. Donc la guerre, et puis ensuite plusieurs chapitres, le 6, 7, 8, consacrés aux stratégies de Vercingétorix. On en reparlera peut-être, mais encore une fois, le but n'est pas de tout dire ici. L'insurrection, le pousser tiré, l'enclume et le marteau. Et puis ensuite, une énorme conclusion qui permet effectivement à chaque fois de bien faire la synthèse de tout ce que vous avez avancé et démontré. Donc, beaucoup de croquis. Par exemple, le dispositif intéressant de la bataille de Lutèce, une bataille dont on parle peu en fait.
Oui, elle est oubliée très souvent par les auteurs. Et de toute façon, c'est vrai qu'elle n'est pas très importante, en fait. Vercingétorix ne s'y est pas impliqué. Ce sont ses lieutenants qui lui ont dit qu'il fallait faire quelque chose, vaincre quelques Gaulois pour sauver l'honneur, si on peut dire, avant de partir, de faire retraite vers la province romaine. Parce qu'à ce moment-là, l'armée romaine était en complète déroute. Elle était complètement vaincue. Elle ne pouvait plus rester dans la Gaule indépendante parce que Vercingétorix avait réussi à couper tous les vivres et elle devait partir vers la Gaule romaine pour la protéger car Vercingétorix la menaçait militairement.
Et oui, d'ailleurs, vous indiquez que la bataille de Lutèce, c'est une bataille assez mineure. Et Lutèce elle-même, à l'époque, n'est pas du tout la ville qu'on pourrait croire dans l'importance. Donc, moi, je signalais cette bataille parce que vous avez pris soin de démontrer son dispositif et son intérêt quand même. Et puis, le long résumé de la guerre des Gaules. Enfin, tout est extrêmement documenté et très clair pour le lecteur, même s'il ne connaît rien, ce qui est mon cas en stratégie. Alors, je voudrais vous interroger sur quelque chose, et beaucoup de choses m'ont passionné, mais déjà la notion de Gaule que vous abordez au chapitre 2, et vous avez là un point de vue géographique en indiquant que ce n'est pas le territoire auquel on pense aujourd'hui.
Oui, d'abord la Gaule, le mot Gaule, ce sont les Romains qui l'ont inventé, en particulier César qui l'a employé. Les Gaulois eux-mêmes ne se sentaient pas Gaulois. Les gens du Midi étaient les Volques, les Tectosages, les Volques arécomiques, les gens de Bretagne étaient les Vénètes, les Osismes, ils se sentaient Vénètes, Osismes ou autres, mais pas Gaulois. Et alors le territoire que César appelle Gaule, c'est un territoire en fait qui a quand même une unité, qui est une unité de langue, et aussi un tout petit peu une unité politique par des assemblées qu'on appelle les concilia, où les chefs de tous les peuples se réunissaient pour voir s'il y avait des affaires communes. Alors ce territoire était limité au sud par les Pyrénées et la Méditerranée, au nord par le Rhin, à l'ouest par l'océan Atlantique, à l'est c'est plus difficile, il y a donc le Rhin au nord, nord-est, ça va de soi, mais dans les Alpes, on ne sait pas très bien par où ça passe. En tout cas, c'était un territoire immense.
Voilà.
Je voudrais dire une chose,
oui,
si vous le permettez,
bien
parce
sûr.
Que vous me couvrez d'éloges. J'essaie de ne pas, le plus souvent, de ne pas faire l'éloge, justement, de tel ou tel auteur. J'essaie d'être totalement neutre, d'être le plus neutre possible. Totalement, ce n'est pas possible. D'être le plus neutre possible, de façon à laisser à chaque lecteur le soin de se faire son idée. Mais évidemment, entre nous, hein, ne le répétez pas, il est certain que Vercingétorix est un personnage important qui était pétri de qualité, qui se battait pour un idéal. C'est tout à fait intéressant, il est tout à fait intéressant à étudier.
Oui, et d'autant que beaucoup de mystères l'entourent encore. Alors donc, je reviens simplement sur le point de vue géographique, territoire plus vaste, et vous venez d'insister sur les voies de communication, les cours d'eau, les ponts, qui ont eu énormément d'importance dans cette guerre.
Dans toutes les guerres, les cours d'eau et les ponts ont une importance. Le cours d'eau peut être un obstacle, ça c'est ce que des historiens comme Goudineau n'ont pas vu du tout, c'est un obstacle militaire. Forcément, si une armée veut traverser un cours d'eau et qu'une autre armée est en face, elle va avoir beaucoup de problèmes parce que le cours d'eau, dans ce cas-là, se met au service de celui qui défend. On a un exemple qui est tout à fait différent. En 406, quand les Vandales, les Alains et les Suèves ont voulu envahir la Gaule, ils ont été obligés d'attendre que le Rhin soit gelé parce qu'ils ne pouvaient pas passer sans ça. Et pourtant, l'armée romaine de cette époque était bien médiocre. Quant aux ponts, ils ont au contraire une seule fonction, qui est de relier les deux berges du fleuve et donc de faciliter le passage. C'est pourquoi les soldats de toutes les armées de tous les temps essaient de garder les ponts. Il y a un film sur la Deuxième Guerre mondiale, je crois que ça s'appelle « Le dernier pont sur le Rhin » ou quelque chose comme ça, où les soldats américains essaient de s'emparer d'un pont que les Allemands en tiennent. Mais c'est de tous les temps, hein. Le pont doit être tenu, et même en cas de besoin, en cas d'urgence, il est coupé, on le détruit, les ponts romains pouvaient être détruits dans cette guerre, parce que c'était des ponts en bois. En revanche, les ponts en pierre sont extrêmement solides.
Oui, on a eu quelques preuves aujourd'hui où il résiste à tout, semble-t-il. Nous allons marquer une petite pause musicale étrange à nouveau, décidément. J'ai choisi, en allant capter ça sur YouTube, un chant gaulois dont, pour ma part, l'origine est incertaine. On prétend que c'est du gaulois. Moi, je ne sais rien du tout de cela. Je vais dire qu'il s'appelle Caturix avec nous. Nous allons l'écouter et les auditeurs pourront regarder et lire les paroles en allant eux-mêmes sur YouTube. Nous l'écoutons. À tout de suite, Yann. Alors, bien entendu, nous sommes sur Radio Alliance Plus et c'est Antiquissimo et c'est Yann Le Boeck, notre invité du jour, qui nous passionne avec son livre tout aussi passionnant, Vercingétorix. Nous allons maintenant essayer d'évoquer ce personnage dont on a dit qu'il était extrêmement mystérieux. Vous passez beaucoup de temps, du reste, avec son nom et nous aussi, nous allons essayer de comprendre pourquoi il s'appelle Vercingétorix avec ce rix qui ressemble étonnamment au rex latin.
Effectivement, c'est le même mot. Hein. La langue des Gaulois, le celte, la langue celtique, était une langue indo-européenne. Ce sont donc des langues sœurs, des langues voisines, comme le sont aujourd'hui le français, l'italien, le français et l'espagnol, avec le portugais. Et donc, rix veut dire effectivement roi. Alors, le début, c'est là où est le problème, Vercingétorix, parce que la langue gauloise est assez mal connu. Nous avons des philologues qui sont très très importants, Xavier de Lamarre notamment, mais il n'est pas le seul, et qui connaissent quand même pas mal de mots. Ils ont réussi à écrire des dictionnaires, des livres, à commenter cette langue. Vercingétorix, d'après eux, ça veut dire le roi, d'accord, suprême des guerriers. Alors c'est très intéressant parce que roi, c'est un pouvoir politique, bien entendu. On sait que le père de Vercingétorix a été mis à mort parce qu'il voulait devenir roi chez les Arvernes.
Tiens, on a déjà entendu une histoire pareille chez les Romains, hein, de celui qui se fait tuer pour vouloir être trop.
Voilà, être trop proche de la royauté, pour aspirer à la royauté. Donc, et il est clair que Vercingétorix, lui aussi, a aspiré à la royauté, à une royauté politique chez les Arvernes. Alors, a-t-il aspiré à la royauté sur l'ensemble de la Gaule? À mon avis, c'est probable, mais bon, okay, rien ne le dit. Et son père a choisi intentionnellement, parce que c'est le père qui décide du nom du fils, bien entendu, a choisi intentionnellement ce nom Henrix en roi, mais il a voulu en limiter l'impact en disant qu'il était seulement le roi des guerriers, autrement dit qu'il était aussi un guerrier et que son autorité éventuelle pourrait se placer seulement dans le domaine militaire.
Alors, ce personnage qu'on va dessiner maintenant, il faut prendre soin aussi de dire, et vous le dites bien dans votre livre, que César lui fait la part belle, c'est-à-dire qu'il en fait quelque part l'éloge. Ça peut sembler curieux, mais pas du tout, parce que plus l'ennemi est prestigieux et plus on a de mérite à l'avoir maté.
Effectivement, César ne le méprise pas, ne diminue pas son courage, sa valeur, au contraire, en disant « j'ai combattu un ennemi courageux, valeureux, intelligent, je suis donc courageux, intelligent et valeureux, et plus que lui, puisque c'est moi qui ai gagné ». Et en fait, donc il ne faut jamais perdre de vue, quand on lit « La guerre des Gaules », que César est le plus grand menteur qui soit dans l'histoire de l'humanité, et qu'il cherche surtout à se vanter auprès du peuple de Rome.
Ben oui, enfin, menteur ou homme politique, quoi. C'est-à-dire que c'est de la propagande.
La même chose.
Voilà, c'est de la propagande. Je ne dirais pas que c'est du mensonge,
je
mais
plaisante.
C'est
voilà. C'est
mais bon, ben, c'est parce que moi j'adore Jules César, donc évidemment je le défends un petit peu quand même.
Donc, ah oui, moi aussi.
Donc parce que je trouve que lui aussi, et c'est un génie pour beaucoup de choses, évidemment. Mais vous le savez beaucoup mieux que moi.
Vous savez ce qu'en disait Pline l'Ancien a écrit qu'il admirait profondément César pour son intelligence, ce qui veut dire son talent d'écrivain, son talent de général, etc., mais qu'il ne lui pardonnerait jamais d'avoir fait tuer tant d'hommes pour sa gloire personnelle, pour faire sa carrière.
Ben oui, on peut en dire effectivement ça de beaucoup d'hommes politiques, de tous ceux qui sont ambitieux, hein, qui sont intelligents,
oui,
mais qui mettent cette intelligence à leur propre service, effectivement.
Alors,
voilà. dans ce personnage très, très mystérieux, dont vous dites qu'il est jeune quand on le connaît, mais pas si jeune que ça en fait, puisque vous redéfinissez le mot adolescens latin, vous indiquez effectivement qu'on ne sait pas énormément de choses sur lui.
Effectivement, c'est ce que je vous ai dit au début de notre conversation, si je ne me trompe. On a à peu près 40 lignes sur lui. Nous savons donc qu'il est adolescens. J'ai étudié ce mot, j'ai fait une étude sur la signification précise de ce mot, et j'en ai déduit qu'il était né entre 80 et 70 avant Jésus-Christ. Il est né à Gergovie, qui était la capitale des Arvernes. Il est né effectivement dans une grande famille, puisque son père pouvait aspirer à la royauté, et son oncle dirigeait le Sénat municipal, le Sénat local, le Sénat de la cité, le Sénat du peuple, donc une grande famille. Nous savons qu'il a été à un moment donné dans l'entourage de César, mais là, on n'a pas de certitude sur ce qu'il y faisait. Était-il un otage? Était-il un ami? Était-il les deux à la fois? Vous savez, il arrive souvent qu'un homme puissant, invite le fils de son concurrent pour le surveiller, le contrôler, etc. Et donc, nous savons ça aussi. Nous savons qu'il ambitionnait le pouvoir de monarque. Nous savons, César dit qu'il était dux et impérator. Il emploie ces deux termes. Le dux, c'est celui qui commande une armée, simplement. Et l'impérator, ça c'est très intéressant, c'est un peu différent. C'est celui qui commande une armée, mais non seulement une armée, mais une armée victorieuse. Donc c'est un bon général, c'est quelqu'un qui a remporté des victoires. Nous connaissons un petit peu son portrait. Alors il y a la question des monnaies qui a été discutée par une dame très savante qui dit qu'on n'est pas sûr que ce portrait soit celui de Vercingétorix. Je pense qu'elle est un petit peu pessimiste. Son moral, il était dynamique, éloquent, intelligent.
Ah oui, vous insistez beaucoup et vous le démontrez sur son art de la rhétorique, hein, l'art de parler aux troupes.
Oui,
c'est, en général,
oui.
C'est ça aussi, hein, celui qui sait parler aux troupes.
Bien sûr, chez les Romains aussi. Et dans l'Antiquité, l'éloquence était d'autant plus, la rhétorique était d'autant plus importante que les gens ne disposaient pas de presse, de radio, de télévision. Ils n'avaient pratiquement que des discours à entendre. Nous savons pourquoi il se battait. Pour sa gloire, c'est certain, César ne le cache pas. Belli Laos, je dis ça pour les latinistes.
Oui.
Et puis aussi pour la liberté et la patrie. César le dit très clairement, il emploie plusieurs fois le mot « libertas ». Alors bon, on pourrait discuter infiniment sur le sens exact de « libertas », qui n'est pas tout à fait le sens que nous employons de nos jours. De nos jours, en 2023, il y a liberté quand il y a liberté de la presse, notamment. Évidemment, il n'y avait pas de liberté de la presse à cette époque. Il n'y avait pas de démocratie non plus. Je rappelle que le mot démocratie est un mot grec, qu'il n'a pas d'équivalent en latin. Quand je faisais des thèmes latins étant jeune, j'étais obligé d'employer une périphrase pour traduire démocratie. Et les Gaulois n'ont jamais vraiment connu la démocratie. Ils ont alterné entre le régime monarchique. Tous les peuples du nord de la Gaule, de la Belgique actuelle, étaient dirigés par des rois. Les autres cités au sud, à l'ouest, mes ancêtres les Vénètes notamment, étaient dirigés par des régimes aristocratiques, c'est-à-dire concrètement par des sénats. C'était le sénat local qui gouvernait ce peuple. Mais il y avait en même temps, et ça c'est quelque chose d'assez original, moi je crois que c'est très beaucoup plus important qu'on l'imagine, et beaucoup d'auteurs ne l'ont pas vu, il y avait une volonté de retour à la monarchie dans un certain nombre de peuples dirigés par des aristocraties, et notamment une monarchie qui était très moderne pour l'époque, qui était la monarchie de type macédonien, du type d'Alexandre le Grand. Donc le monarque devait être un grand chef de guerre, un grand tacticien, un grand stratège, un personnage avec une vue très large. Et je crois que Vercingétorix, c'est une chose qu'on dit très rarement, Vercingétorix s'inscrivait dans la lignée d'Alexandre le Grand.
Oui, et justement, dans tout ce que vous développez, il m'intéressait aussi de souligner que vous montrez qu'il sait tenir compte de ce qu'on appelle le train, l'approvisionnement, et que frumentum et pabulum, ce sont des mots qu'il maîtrise parfaitement.
Oui, la logistique, comme disent les modernes, les militaires actuels, la logistique était très importante dans l'armée de César. Alors c'est assez intéressant parce que si on compare Scipion l'Africain combattant en Espagne au cours de la Deuxième Guerre Punique et César combattant en Gaule, on voit qu'il y a quelque chose de très différent. Scipion l'Africain écrivait lettre sur lettre au Sénat en disant « Mes soldats ont faim, envoyez-nous du blé ». Et le Sénat ne répondait pas. Tandis que César, lui, veille systématiquement, et Vercingétorix également, veille systématiquement à cette question. Et alors Vercingétorix a mis au point non seulement une logistique pour ses hommes, mais ce que j'ai appelé une contre-logistique, en attaquant les convois de vivres, les possibilités de vivres et de fournitures diverses de l'armée romaine. Alors j'ai parlé avec un officier français qui a dirigé la logistique de nos troupes en Afghanistan. Il m'a dit effectivement que le terme de contre-logistique n'existait pas, qu'il ne l'avait jamais employé, mais qu'il trouvait que c'était une bonne idée, que c'était un bon terme, parce que toutes les armées, en période de guerre, essaient de détruire la logistique de l'ennemi.
Alors oui, tout ça en fait, comme nous ne cessons de le dire, un chef exceptionnel qui est capable en effet non seulement d'assurer la nourriture de son armée, mais de priver l'autre armée, ça a même été le nerf de la guerre dans notre affaire, de l'ennemi. Donc un organisateur, un orateur hors pair, quelqu'un qui, comme dans toute l'Antiquité, respecte le jus bellum, hein, vous avez indiqué que l'honneur...
Le
jus belli, oui. Le droit de la guerre, le droit de respecter ces accords tacites, moraux, qu'on passe entre les uns et les autres. Et puis, vous développez, chose que nous n'aurons pas le temps de faire parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, vous développez d'une manière précise et passionnante, en trois chapitres, la tactique employée et évolutive de Vercingétorix lorsqu'il rend compte que telle chose ne marche plus et qu'il va devoir chercher autre chose. L'inventeur, quelque part, de la guérilla. Donc, on va en parler très rapidement parce qu'il nous reste quelques secondes. Mais, effectivement, qu'est-ce qu'il comprend pour battre César ?
Alors, d'abord, effectivement, vous avez raison. Il arrive en janvier 52, au tout début de l'année. Il voit qu'il y a un soulèvement et que ce soulèvement est en spontané. Est en réalité donc ce que l'on appelle de nos jours une guérilla, une petite guerre. Et il lui faut prendre en main ces insurgés et avec ça en faire une véritable armée. Et c'est son premier succès, qui est de transformer des guérilleros en soldats. Le deuxième succès, c'est le pousser et tirer, que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure.
Oui, et vous, faut lire attentivement dans votre livre, hein, c'est passionnant. Et enfin...
Pousser César, pardon.
Et enfin, parce que nous arrivons à la toute fin, et enfin, troisième volet.
Voilà, le marteau et l'enclume. L'enclume, c'est le site d'Alésia sur lequel il y a des soldats, qui est un site imprenable par les Romains. Et le marteau, c'est une armée dite de secours qui arrive de l'extérieur et qui doit écraser l'armée romaine contre le site d'Alésia. L'erreur de Vercingétorix a été de ne pas voir que les Romains savaient faire des travaux de défense énormes. Et que en race campagne, ils étaient invincibles.
Alors donc, malheureusement, l'émission touche à sa fin, comme on dit. Nous n'avons bien sûr pas tout dit, mais tout le monde va se précipiter lire ce livre Vercingétorix et voir comment cet homme a réussi à fédérer des gens qui étaient parfaitement divisés, on va dire. Merci beaucoup, Yann, et à bientôt pour un nouveau livre.
Merci, Martine. Merci aux auditeurs de m'avoir supporté.
Je pense qu'ils l'ont fait avec plaisir. Au revoir. À bientôt.
Au revoir.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus.